Radio Okapi.
Identité culturelle. Radio Okapi.
Identité culturelle.
Messieurs, mesdames, bonjour. Merci d'écouter Radio Okapi. Aujourd'hui, Identité culturelle s'épanche sur l'utilisation des masques et des statues dans les sociétés ancestrales en RDC. C'est à travers une visite du Musée national Antenne de Goma. De la cérémonie d'intronisation en passant par l'initiation des jeunes jusqu'au règlement des questions sociales, les masques et statues étaient très présents dans les sociétés ancestrales. Nos invités aujourd'hui sont Romain Moudéroy, directeur du Musée national Antenne de Goma, Emmanuel Rouzouzi, historien, et Massiré Kaloufungulo Laguerre, directeur du Musée géologique privé de Goma. Ils vont nous éclairer à ces sujets. Je suis Rosalie Masikazawadi à la présentation de ces magazines. Bienvenue.
Radio Okapi.
À Goma.
Okapi.
Sur 95.5 FM.
Okapi.
J'ai découvert que la proverbe est Oyo. Au-dessus, il y a des lézards. C'est comme une vase. S'il y a un problème dans les foyers et que la femme voulait s'exprimer à son mari, elle mettait ça, elle posait, elle mettait la nourriture à l'intérieur et posait ça sur la table. Une fois le mari voir ça, il saura que déjà il y a un ça ne va pas dans les couples, alors il cherchera à parler à sa femme. Donc ça ne se présentait pas n'importe quand, non.
Nous sommes là au Musée national Antenne de Goma où travaille Naomi Kawe. Elle nous présentait l'une des œuvres d'art de la collection de ces musées, une œuvre de Woyo du Congo central. La collection du Musée national Antenne de Goma comprend près de 500 œuvres issues de plusieurs tribus à travers la RDC. Avec l'historien Emmanuel Rouzouzi, découvrons les sens de ces patrimoines matériels ligués par les ancêtres.
Nous avons des masques, nous avons des statuettes ici au musée de Goma. Et ces statuettes ainsi que ces masques ont joué un grand rôle dans nos sociétés traditionnelles. Vous devez savoir que nos ancêtres n'écrivaient pas, mais ils faisaient information aux générations futures à travers les différentes œuvres qu'ils fabriquaient et qui synthétisaient les gros de la coutume de leur société. Et donc, on avait par exemple un patrimoine matériel très riche avec des statues. Et parmi ces statues, il y a certaines qui étaient déviants et d'autres qui étaient léviants. En parlant de masques ou des statues léviants, c'est-à-dire c'était des masques pour la bénédiction. Les léviants, c'était pour la malédiction, si on peut le dire, parce que ça devait servir pour la punition de ceux-là qui allaient outre les us et les coutumes bien établis dans la société.
Parlant des malédictions et des bénédictions, est-ce qu'il y a des exemples concrets où ces masques et statues étaient utilisés?
Oui, voilà par exemple, il y a quelqu'un qui a couché avec une femme d'autrui. Là, il a déjà fait le contraire de ce que la coutume disait. Et pour ça, quand il doit demander pardon, il doit venir et on fait un culte de demande de pardon, de miséricorde auprès non seulement du mari, mais auprès du chef de la société, mais aussi auprès des ancêtres. Parce que en faisant une telle déviation, directement, on pouvait avoir la malédiction du côté de la société. Par exemple, on fera de mauvaises récoltes. Par exemple, il y aura des épidémies. Par exemple, il y aura toujours des ça ne va pas dans la société. On aura des morts dans les différentes familles. Alors, quand on organise un culte, il y avait des masques, des statues qu'on devait utiliser dans ces cadres. Ou soit, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose qui devait lui revenir. Il va, par exemple, chez les sages de la coutume. Et là, il pose sa demande. Les sages de la coutume pouvaient lui donner une statue ou un masque qu'il pouvait utiliser pour qu'il retrouve ce qu'il a perdu. Parce qu'en Afrique, la statue, on ne pouvait pas l'apprécier seulement par l'aspect extérieur, mais c'est par rapport à la charge que la statue devait avoir. Chaque statue devait avoir une charge. Alors, pour les statues qui devaient servir pour punir, par exemple, ceux-là qui ont fait des choses drôles à l'égard de leurs collègues, ça devait être des statues qui font peur. Donc, ça quand vous le voyez, vous comprenez que c'est pour punir. Et c'est comme ça maintenant que, par exemple, c'est ce qu'on appelle actuellement les amulettes. C'est que vous utilisez croyant que ça va faire du tort à l'autre, ainsi de suite. Alors, l'autre, là, maintenant, c'était pour la bénédiction.
C'est ce que vous avez dit, les masques, les viens.
Les viens, voilà. Là, on les utilise, par exemple, quelqu'un a accouché, et là, vous devez danser, vous devez porter des masques, vous devez mettre des colorants qui symbolisent la cérémonie en soi, et qui doivent accompagner aussi la danse. On doit danser avec certaines statues, des sceptres, ainsi de suite. À part ça aussi, vous voyez par exemple pour la bénédiction, on a fait de très bonnes récoltes. Par les bonnes récoltes, par exemple, il y a un enfant qui a passé d'une étape à une autre. Là, on doit toujours porter des masques. C'est là où je veux parler, par exemple, chez les légats. On avait des masques qu'on devait faire porter aux enfants lors de l'initiation. Quand on doit faire l'initiation, en fait, c'était l'éducation de Bruce chez nous en Afrique. On devait prendre les enfants d'une tranche d'âge, selon la coutume. On les amène dans la brousse où on doit leur apprendre les us, les coutumes, les comportements qu'on doit afficher comme homme. Alors, les jours de départ, on doit faire porter tous les enfants les masques. Et surtout que la sélection était faite par les vieux sages toujours de la coutume. C'est là qui maîtrisent la coutume. C'est là qui sont là pour suivre régulièrement les normes édictées par la coutume. Et là, on prend les enfants tôt le matin pour que personne ne voie qui est-ce qu'on a pris. On le fait porter le masque. On va au centre du village. On organise une cérémonie d'au revoir. Et tous les enfants portent toujours les masques. Et ils vont dans la brousse, ils peuvent faire là-bas même 2 semaines. Du retour, ils rentrent, toujours en portant les masques. Le village a été formé que les enfants reviendront. On organise encore une cérémonie de les recevoir. Et c'est en pleine cérémonie maintenant qu'on dévoile les enfants, qu'on enlève le masque. Et on voit tel enfant aussi était là, tel autre. Et celui-là, c'est déjà un adulte pur. Comme il a déjà maîtrisé les notions de la coutume, il a déjà eu les différentes initiations, par exemple la circoncision traditionnelle, parce que nous, on ne pouvait pas les faire à la maternité. Et nous allons voir, il y a certaines statues qui sont ici au musée, qui représentent toutes ces cérémonies telles que je l'ai dit. Alors, l'enfant, il peut être même quelque part, comme c'est déjà un adulte, une femme ne pouvait plus passer à côté de lui en état debout parce qu'il connaît qu'il a affaire à quelqu'un qui est déjà mûr. À part ça aussi, il y a des statues, des masques qu'on utilisait aussi pour l'intronisation. C'est-à-dire, il y a un roi qui est décédé, même si en Afrique, on ne dit pas que le roi est décédé. Mais il y a certaines statues de la coutume qu'on utilise. Par exemple, dans les Kassai, ici, nous allons présenter l'Endop. C'est une statue qu'on utilise au Kassai, incubateur du pouvoir. Mm-hmm. C'est-à-dire, le roi est décédé, ou il est dans son sommet éternel, comme on l'a toujours dit. On prend la statue Ndop, on la place sur les corps du défunt. Le défunt peut passer la nuit, même 2 jours ou 3 jours, avec l'Ndop. Et l'Ndop peut entrer maintenant de prendre la charge qui était dans ses rois défunts. Mm-hmm. Et le lendemain, l'Ndop, on le place maintenant sur le roi qu'on va installer. Celui qui sera intronisé doit passer encore des nuits avec l'Ndop en l'embrassant très bien. Parce que l'Ndop télécharge maintenant la charge qu'il a fait quitter de l'autre côté vers le nouveau roi qui sera intronisé. Et à part ça aussi, demain, quand on va, si on va introniser le roi, il doit prêter serment en touchant sur la corbeille des reliques. Pourquoi ? Parce que les rois en Afrique, c'est un courroie entre les vivants ainsi que les ancêtres qui se trouvent dans un autre monde. Mais comme on le savait, les ancêtres ont un regard sur les vivants. Et tout ce que les vivants font, ils le font par télécommunication avec les ancêtres. Alors, ces rois-là, ils doivent être aussi capables, ils doivent mener un lien de liaison entre ses prédécesseurs, lui-même ainsi que les vivants. Alors, c'est pourquoi on devait avoir des statues qui devaient aider, notamment la corbeille à reliques. À part ça aussi, nous avons les sceptres, par exemple. Les sceptres, c'est le bâton de commandement pour les rois. Et dans ces sceptres du roi, il y a aussi des figurations qu'on doit placer. Il y a souvent des personnes qu'on installe, qu'on met dans les sceptres.
Par exemple, il y a un sceptre ici devant nous où on voit une femme au-dessus. Les sceptres, c'est pour le roi. Pourquoi c'est la statue d'une femme qui est au-dessus?
Ici, nous avons les sceptres qui viennent d'une civilisation où on pratique le matriarcat. Et comme je le disais, les sceptres du roi en Afrique doivent toujours avoir des figurations d'hommes. Et quand je parle de l'homme, ça peut être le masculin ou le féminin.
Pour dire?
Pour dire que le roi, c'est lui qui commande la société et donc c'est lui qui tient la communauté. Et tous les hommes doivent respect. Et là, quand tu le tiens, le bâton de commandement, avec des figures d'hommes là-dedans, lui est au-dessus de tout. Et ils lui doivent respect. Voici maintenant, ici nous avons la femme qui est là. Et comme je le disais, ça vient d'une civilisation à pratique matriarcale. Mais si vous constatez très bien, il y a aussi ce qu'on appelle les nerfs vitaux pour les statues africaines. Chez la femme, il y a toujours les seins. Parce que c'est la mère nourricière, elle doit nourrir toute la communauté. Nous avons aussi le nombril avec une représentation spéciale par rapport aux autres parties du corps. Pourquoi? Parce que c'est elle la maternité, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui reproduit la société, c'est elle aussi qui a les liens entre les différentes personnes. Alors, si les nerfs vitaux sont là, il y a aussi des maquillages, vous voyez bien. C'est pourquoi ils ne font pas croire que nos ancêtres ne savaient pas ce genre de maquillage.
Donc, il y a des ornements, bijoux, colliers.
Il y a les colliers aussi, et ainsi de suite. Alors, à part les sceptres, à part le corbet à reliques, il y a aussi les flûtes. Les flûtes pour les différentes cérémonies. Et à part ces flûtes, il faut savoir que dans les trônes du roi aussi, on devait faire des représentations humaines. Dans les différents pieds, si je peux le dire, du trône, il faut qu'il y ait aussi des représentations des hommes. Et donc, en bref, sur le plan valeur des non-coutumes, des nosis, représentés actuellement par ces statues ainsi que ces masques, elles ont joué un grand rôle dans la société. Et nous invitons toujours les gens à venir découvrir les musées pour qu'ils comprennent ce que la société a été. Il faut toujours faire une rétrospection, faire un retour vers le passé pour comprendre le présent et savoir comment on peut projeter l'avenir.
À côté de ces œuvres d'art, le Musée national Antenne de Goma garde aussi un patrimoine immatériel, comme l'explique son directeur Romain Moudéroy.
Quand on parle du patrimoine immatériel, vous comprenez vous-même, c'est quelque chose qui n'est pas matériel représenté. Une chanson, par exemple, un conte, un proverbe que tu connais, mais que tu peux transmettre ou discuter avec quelqu'un, ce n'est pas palpable, ce n'est pas écrit, mais c'est une richesse, une histoire qui représente la vie d'antan de nos ancêtres. Mais si vous ne mettez pas ça par écrit ou si vous n'avez pas ça en audio, ben c'est une histoire qui va disparaître demain ou après-demain. On a réussi à reconstituer certains ouvrages que nous avons ici, vous voyez, de certains musiciens ou certaines tribus du coin ici. On en a pour les rega, les bashi. Nous avons même quelqu'un qui a reconstitué un dictionnaire de multilingue, un dictionnaire représentant 5 langues du Nord Kivu ici, où on peut se promener, mais quand on a ce dictionnaire, on sait qu'on peut s'exprimer en Kihunde, en Kinyarwanda, en Kitembo, ainsi de suite. Bon, c'est beaucoup de valeurs là, qu'on ne voit pas visiblement, mais qu'on peut reconstituer ou qu'on peut soit réécrire, soit enregistrer et qu'on peut transmettre aujourd'hui ou demain aux générations futures. Ce qui intéresse de prime abord les visiteurs qui arrivent, c'est souvent ce qui frappe. Les masques, les statuettes, parce qu'elles sont de toutes formes, décorées autrement et ça attire la curiosité. Alors les gens veulent comprendre pourquoi, par exemple, un gros masque comme ça a été décoré, scintillé avec des coris et des pierres précieuses. Qu'est-ce qu'il voulait transmettre, celui qui a fait ça? Et pourquoi ça a telle forme? Qu'est-ce que ça exprime? Et c'est le message maintenant qui doit être transmis. Le message de ceux-là qui connaissent très bien ceux qui ont étudié l'histoire de l'art et qui doivent expliquer le message que les ancêtres ou cet arrière-grand-parent a voulu transmettre en faisant tel masque, en décorant telle statuette. Et c'est ce que nous découvrons dans toutes les explications qui sont données par nos historiens de l'art ici, à travers les fiches que nous détenons ici. Au-delà de ça, il y a des tissus en raffia qui constituent l'habillement de l'époque. Ce n'est pas du coton, ce sont des écorces d'arbres qui ont été travaillées et dont se servaient nos ancêtres pour se couvrir, pour orner ou pour... ça faisait partie de leur vie. Aujourd'hui, nous portons des tissus de toutes sortes qui nous viennent d'ailleurs. Et ça veut dire que nos ancêtres n'ont vécu que nus depuis qu'ils sont nés. Non, il y a à faire découvrir à nos enfants que nos ancêtres ont aussi travaillé. Artisanalement, ils ont fabriqué des habits à travers les écorces d'arbres et consorts et qui sont représentés ici.
Oui, parce que quand on dit aux enfants que les ancêtres portaient les écorces d'arbres, les enfants pensent que ce sont les écorces.
Les vraies écorces, c'est ce qu'ils pensent. Et pourtant, ça a été travaillé. Donc, il a existé une sorte d'industrie du textile traditionnel et qui a abouti à ce que tu vois comme tissu. Tu peux porter ça, on ne saura pas que ça vient d'un écorce d'arbre. Et bien décoré. Et c'est ça, certaines valeurs qu'il faut transmettre à nos enfants. Bon, heureusement qu'il y a certains enseignants qui viennent ici. Ils donnent cours dans des manuels qu'ils ont à l'école, mais ils n'ont jamais palpé, ils n'ont jamais vu ça. Et il y en a qui viennent. En dehors des tissus, il y a des objets d'usage courant qui ont caractérisé la vie de nos ancêtres. Ça, par exemple, c'est une flûte de Bakongo. Par exemple, quand on devait rassembler les gens au village, il fallait un son précis et qui devait sortir par cet instrument ici. Chaque son était connu. Mais si aujourd'hui, quelqu'un joue ça, qui saura que c'est un message qui est passé? Il en est de même pour les tam-tams, non? Les tam-tams pouvaient être joués d'une manière ou d'une autre. Mais c'est selon qu'on joue ces tam-tams-là, on sait que non, on vient d'avoir un événement. Une naissance quelque part, un décès quelque part. Ou bien on est convoqué chez le chef du village, ainsi de suite. Tout ça sont des valeurs, pratiquement on rentre dans le patrimoine immatériel, n'est-ce pas? Des valeurs qui se perdent. Mais qu'on devait apprendre ou peut-être même enregistrer si on avait les moyens de rentrer au village là où on a encore, où on vit encore ça. Ça devait être conservé et plus tard transmis de génération en génération.
Chilombo mukanda mwa tusibukie. Si tukanda tona babule kanangana. Le kanangana ke limbo luno. Kubalosa. Emnyanyi. Yendungo. Yenyiso. Nemibere yabatembo. Ya mwareki. Na chichatu mutali mukalwa re. Ova. Ah kubina ye. Yaniro bienda bia bituka e, yera toruna kwa mira e, tabichiri lwarero, kwa mire ndungo sera mwetu, sabazi mumire ngache, au mane nyanya, nyanya ye chitemo, kwa mire ndungo sera mwetu, sabaza kuleta kanamo, ndungo sakula mia malwala e, ndungo sakuleta mtoloke, ndungo sakusesa wami, ndungo sakusesa wira e, Kosa kusesa buhosie, kosa kusesa wamie. Eshembe nino ya Kongola, shembe ye batembo. Yaba kenge sendungo, dungo sera mwetwe. Yaniro, arere. Yaniro, 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 yaniro gabi tukae. Yaniro.
Wanjira mwabuse ya no mwalire na lio mira Mutakalame kavi Mutakalame na changu Iba
bandu barabandire bakola bya babita kula kwa mi si bya niru bya binduki
mahunga he mahunga he mahunga he barana mahunga he mahunga he mahunga he
bya niru bya binduka, c'est le titre de cette chanson de la communauté Tembo, une communauté du Nord Kivu. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Okapi. Nous sommes aujourd'hui au Musée national Antenne de Goma pour parler de sa collection.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Monsieur Masiri Kalufungulo Laguerre, lui, est directeur du musée géologique privé de Goma qui va bientôt ouvrir ses portes. Nous l'avons rencontré au musée national Antenne de Goma.
Si je suis au musée national de Goma, maintenant là, c'est par partenariat entre le musée national de Goma et le musée géologique privé que moi-même je suis le directeur. Et je suis venu rendre visite pour essayer d'échanger et voir comment promouvoir la culture, l'art dans notre province d'abord et peut-être au niveau national juste après.
Quelle richesse une personne tire en venant visiter les musées, il a quelle valeur ajoutée à la sortie?
Normalement, ce n'est pas de notre habitude, nous, Congolais, ce genre de visite. Or, c'est là où effectivement nous perdons la chaîne de nos valeurs artistiques. Parce que, départ, nos ancêtres jusqu'à nous, il faudrait quand même qu'il y ait un lien par rapport à la connaissance de nos anciens, nous, contemporains, et à la génération future. Mais non, pour visiter le musée national, vraiment, il y a une grande richesse artistique, culturelle, et vraiment et scientifique aussi. Parce que quand on visite un musée, c'est vraiment faire de grandes recherches par rapport au passé, au présent, et préparer le futur. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais on est à ce stade-là, là où les gens ne veulent même pas venir visiter un musée. Ils ne connaissent peut-être même pas l'existence du musée. Or, c'est là où d'autres civilisations puisent leur capacité de développement, par exemple, capacité de réflexion, capacité d'intelligence. C'est dans les œuvres du passé, pratiquement. La fois passée, la reine d'Angleterre est décédée. Mais si vous voyez les rites qui sont passés à ce dé-là, vous serez épatés. Nous, on nous a défendu nos cultures, nos coutumes. Mais eux, ils continuent à prendre au sérieux leurs coutumes. Pour nos enfants, il faut maintenant qui est une activité, de les ramener à commencer à visiter nos musées pour avoir l'idée sur le passé, le présent et ce qui sera le futur.
Pour l'historien Emmanuel Rouzouzi, il est important que les Congolais, de manière individuelle, prennent connaissance de la richesse culturelle ancestrale, car elle constitue les racines pour un développement positif de nos sociétés actuelles et celles à venir.
À l'époque, les œuvres d'art pour les communautés, les sociétés africaines, c'était quelque chose qui servait aussi comme remède à certains problèmes. Malheureusement, quand la colonisation s'est implantée en Afrique, notamment chez nous, on nous a fait croire que nos masques étaient sataniques et que l'on devait les détruire obligatoirement. Mais ce n'était pas ça l'objectif, mais on devait chercher comment affaiblir l'homme noir devant cette force qu'il avait. Je vous parle d'un exemple au Congo central, nous avons la rivière Inkisi. Les premiers missionnaires, quand ils arrivent, ils retrouvent les noirs souvent courbés devant des statues, en train d'adorer leurs ancêtres à travers les statues. Et ils disent non, ça c'est quelque chose de très nuisible pour implanter notre force. Alors au Bas-Congo, les missionnaires, ils obligent les noirs de détruire leurs masques, leurs statues, ce qu'ils ont fait, et on allait les jeter dans une rivière. Et quelques jours après, il y a eu maintenant une épidémie qui est apparue. Cette épidémie, les gens ont manqué comment est-ce qu'ils pouvaient se soigner de cette épidémie alors que leurs médicaments, Kisi, c'est comme ça qu'on l'appelle, on les avait jetés dans la rivière. Et les gens ont eu le courage encore de se dire non, comme on avait jeté nos médicaments, nos Kisi, dans cette rivière, nous pouvons aller nous laver cette eau et comme ça, peut-être que ces médicaments vont nous aider. Ils ont commencé à se laver l'eau de cette rivière. C'est comme ça que la rivière a pris le nom de Inkisi. C'est-à-dire la rivière qui garde nos médicaments de l'époque. Et leurs médicaments, c'était les différents statues, les différents masques que les missionnaires leur avaient obligés de jeter dans cette rivière.
Vous venez de nous expliquer les pouvoirs qu'avaient les masques dans les sociétés ancestrales. Est-ce que ces masques continuent à porter cette charge-là énergétique des ancêtres continuent à jouer, peuvent toujours jouer les rôles là aujourd'hui.
En fait, pour qu'une statue, un masque puisse avoir sa charge, il faut d'abord un territoire qui a la coutume. De cette coutume, il y a les garants de la coutume qui sont au contrôle régulier et qui organisent aussi des cultes, et il y a aussi les ancêtres. Alors, si le masque parvient à quitter le territoire, il perd directement sa charge, surtout qu'il n'y a plus d'ancêtres, il n'y a plus de ces hommes sages qui doivent encore faire les suivis réguliers de ce que le masque devait être dans la coutume. Alors, dès que vous le faites quitter dans son état naturel, directement, il perd quoi ? Son pouvoir ou sa charge. Je vais vous donner un exemple dans le Lubero. Il y a les Kuhara. Les Kuhara, c'est une statue, un masque du pouvoir royal. Alors, un jour, il y a un blanc qui l'avait vu, l'avait apprécié. Et surtout que les Kuhara, non seulement qu'il a ses pouvoirs, mais à un certain moment, vous pouvez la voir chez vous à la maison, mais il constate qu'il n'y a pas à manger à la maison. Et vous les trouvez dans la parcelle en train de circuler. Et par après encore, le masque lui-même se ramène à la maison et vous trouvez des sacs de riz dans la maison, déjà amenés. Alors, le Kiara, un jour, un blanc les prend, il l'amène. Mais arrivé à la bifurcation vers Kassour, le blanc connaît un accident subit. Et les gens qui viennent disent, mais c'est véhicule, qu'est-ce qui ne va pas? Le blanc, il roulait à vivre vers ou bien. Mais on trouve qu'il roulait très bien. Mais on voit qu'il a commis une erreur. L'erreur, il a pris le masque d'un pouvoir royal sans l'autorisation de toute la communauté. Et le masque lui-même a causé un dégât pour qu'on puisse les ramener là-bas. Et pour qu'on les fasse quitter là-bas, il fallait que toute la communauté, que l'on fasse un culte et qu'on sache qu'on vient de les donner. On l'a donné, mais le blanc, qui croyait qu'il trouve aussi quelque chose de très fort qu'il peut exploiter là chez lui, arrivé chez lui, il a retrouvé que ça ne lui sert à rien par rapport à ce qu'il voyait, les miracles que le masque faisait dans sa coutume d'origine. Nos masques actuels maintenant, comme ils ont quitté leur état naturel, leurs coutumes ont disparu, et c'est comme ça qu'ils n'ont plus cette charge. Et donc les gens ne font pas qu'ils puissent avoir peur de ne pas visiter les musées en croyant qu'il y a des fétiches. Actuellement, il n'y a pas de problème. Surtout qu'avec nos masques actuels, vous voyez par exemple, nous avons toute une collection qui vient de partout. Au musée, il n'y a pas de prêtres de la coutume qui doivent entretenir ce pouvoir pour qu'il reste dans ce masque.
Parce que vous avez parlé de la visite, quel message vous avez à toute la communauté?
Actuellement, on est dans une nouvelle phase où l'Africain doit se connaître lui-même. Ce n'est pas comme à l'époque où l'Africain maîtrisait bien l'histoire de l'Europe que sa propre histoire. Il faut venir découvrir ce que nous avons été. Les écoles, il faut amener les enfants ici pour qu'ils viennent découvrir.
Le musée national Antenne de Goma est situé au quartier Kichero, aux environs du terminus de Ndosho. Son directeur voudrait voir cette institution dotée d'une bonne salle d'exposition.
Nous plaidons pour que le musée puisse être doté d'un bâtiment ou d'une salle où on pourrait exposer tout ce qu'on a comme objet de valeur ici. Bon, bien sûr que le gouvernement nous a doté d'un terrain, mais encore faut-il qu'on puisse nous construire un musée. Je pense que nos autorités qui nous suivent au niveau de Kinshasa pourront faire un plaidoyer dans ce sens pour que non seulement la province du Nord Kivu puisse avoir un musée, mais les autres musées de l'intérieur, notamment Beni Butembo et même Walikale, parce qu'on est tous en partenariat. Pourquoi pas même les musées privés qui sont là, qui peuvent ajouter une valeur à Goma ici, surtout que Goma, c'est une ville hautement touristique, qu'ils puissent aussi bénéficier de ça de la part du gouvernement. Je pense qu'il faut qu'ils y pensent. Nous continuons à travailler dans ce bureau, mais ça aurait été mieux si on pouvait avoir une salle d'exposition beaucoup plus vaste et pouvant contenir toute cette panoplie d'œuvres d'art que nous avons ici.
C'est par cet appel du directeur du Musée national, Antenne de Goma, que nous arrivons à la fin de ce numéro du magazine Identité culturelle. Naomi Kawe, Romain Moudéroy, Emmanuel Rouzouzi et Masiri Kalufungulo Laguerre. Ce magazine a été produit sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Rosalie Masikazawadi. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter ce magazine sur notre site, les www.radiokapi.net. À très bientôt pour un autre numéro du magazine Identité culturelle. Portez-vous bien.